Nous connaissons bien cette parabole, frères et sœurs bien-aimés, cette parabole dite du fils prodigue. Mais j'aimerais peut-être pas tant méditer sur le fils prodigue en lui-même que sur le frère aîné, et méditer avec vous sur ce qu'est la colère. Parce que nous avons là, avec ce frère aîné, quelqu'un qui est en colère, et on peut le comprendre, on peut le comprendre. C'est un homme qui était au champ, qui travaille, qui est responsable, qui le temps où son frère cadet s'est éloigné et a dilapidé sa part de fortune, lui continuait de s'occuper de son père, peut-être son vieux père, son père qui était dans la dépendance, on ne sait pas, son père qui avait besoin d'aide certainement, lui faisant partie des hommes avec une force vive qui aidait au champ et à conduire aussi les différents travaux de la maison. On peut s'interroger, de dire, tiens, qu'est-ce qu'est cette colère qui habite le fils aîné? Quand vous méditez sur la colère, il faut toujours se dire que, au fond, la colère, c'est l'expression d'un besoin qui n'est pas assouvi. Et nous-mêmes, les uns et les autres se positionnent par rapport à la colère, et c'est bien souvent que dans les confessions, eh bien, j'entends des pénitents dire, ben voilà, je me suis mis en colère, etc., etc. Soyons attentifs que la colère, c'est d'abord une émotion. C'est d'abord une émotion. Une émotion qui traduit un besoin. Elle traduit un besoin, et donc de s'interroger quand on se met en colère, pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Et de quel besoin ce frère aîné, de quel besoin c'est le signe, sa colère? Mais pour nous, je pense que c'est intéressant de nous dire que, au fond, si on part de ce besoin-là, on découvre progressivement que nous sommes appelés à peut-être exprimer un besoin. Et bien souvent, la colère, elle vient parce qu'on a un sentiment d'injustice, pratiquement tout le temps. La colère, elle vient là pour... Et il y a des personnes qui sont très sensibles à l'injustice. Certainement, le fils aîné estime que c'est injuste, lui qui sait... donner de la peine, lui qui a travaillé sans compter, lui qui, alors que l'autre est parti dilapider la fortune familiale. Et donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus, sur cette colère qui parfois nous habite, et peut-être de faire la différence quand on travaille un peu à partir des pères de l'Église, etc., des docteurs de l'Église. Vous avez soit saint François de Sales, qui vous dit « ne vous corrompez jamais », on sait très bien, saint François de Sales dit « c'est l'apôtre de la douceur », soit vous avez saint Bernard, c'est-à-dire celui qui ne se met pas en colère face à un péché, celui-là pêche, ce qu'on appelle l'indignation. Donc c'est intéressant de différencier l'indignation de la colère. Et où est-ce qu'il y a, on parle de sainte colère, on parle, vous vous rappelez, Jésus qui promenait sur eux un regard de colère. Ou alors, on connaît bien l'épisode des marchands du temple, voilà, qui est vu comme l'expression d'une sainte colère. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte colère? Quelles sont les conditions pour avoir une sainte colère? Il y a trois conditions. Premièrement, qu'il y ait un vrai mal qui soit en face de vous, qu'il y ait une vraie injustice, quelque chose qui fait que vous voyez qu'il y a un mal qui est présent et qui vous taraude, et vous voyez des gens souffrir à cause de ce mal-là. Donc une intention, un vrai mal. Ensuite, il faut une intention droite. Quand vous vous mettez en colère pour rétablir la justice, votre intention est vraiment le bien que vous cherchez. Et puis, il faut que la réaction soit proportionnée. Il faut que ce soit une réaction proportionnée. Si vous vous mettez en colère juste parce que, de façon excessive, parce qu'on est passé devant vous dans la queue, bon, oui, c'est une certaine injustice, on peut l'entendre, c'est jamais très agréable, etc., mais est-ce qu'il y a besoin de se mettre dans de tels états? Donc, c'est intéressant de dire, tiens, qu'on travaille sur la colère, et de dire qu'il y a une colère qui est sainte, c'est vrai, qui est l'expression du rétablissement de la justice, et puis il y a une colère qui fait que parfois, ben non, c'est notre susceptibilité qui est blessée. N'appelons pas chez nous sensibilité ce que nous appelons chez les autres susceptibilité. Sensibilité, c'est une chose, mais susceptibilité, voilà, oui, il peut y avoir des gens qui sont peut-être plus susceptibles, plus un peu volcaniques, un peu ce qu'on dit soupe au lait, vous connaissez un peu la soupe au lait qui monte comme ça, le lait qui monte quand il bout dans la casserole, etc., hop, un peu en mode Vésuve, un peu volcanique, il y a des personnes comme ça. Maintenant, quand vous regrettez une attitude de colère qui n'était pas sainte, qui n'était pas proportionnée, par exemple, où votre intention n'était pas droite, où il n'y avait pas un désir de rétablir une justice. Quand vous regrettez ça, je crois que c'est important de voir que si le premier mouvement, la première attitude vous échappe, hein, c'est ce côté impulsif, il y a des natures. Je pense que c'est des natures, il y a des personnes qui sont... Voilà, qui sont comme ça, des natures qui font que des personnes réagissent comme ça un peu au quart de tour, que le deuxième mouvement, qui allait demander pardon, ne vous échappe pas. Et c'est là où on n'oubliez pas que le péché est toujours volontaire. Le péché est volontaire. Pour que ce soit un péché, il faut que ce soit volontairement que je me sois détourné du Seigneur ou détourné de la charité, ce qui est la même chose. Donc c'est intéressant de dire, tiens, quand on a ces moments comme ça de colère, parce qu'on vient toucher peut-être une blessure, parce qu'on vient toucher un besoin qui n'a pas été satisfait, eh bien que le deuxième mouvement, lui, ne nous échappe pas, là où on est revenu en nous-mêmes, qu'est le mouvement d'aller demander pardon. Et c'est là qu'on voit cette attitude, au fond, de miséricorde. Dans le cas de notre cher frère aîné, c'est vrai que c'est compliqué, parce que d'une certaine manière, on le comprend, mais la difficulté du frère aîné, c'est qu'il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais rien demandé. Hein, son frère cadet, et on imagine bien, c'est des histoires familiales, on imagine bien que ce n'est pas juste maintenant, certainement en amont de ça, il y a eu des tensions entre les deux frères. Hein, la vie fraternelle n'est pas simple. Hein, la première fratrie qui nous est proposée, c'est Caïn et Abel dans la Bible, on voit bien que ça se termine assez mal. Donc, certainement, il y avait des tensions entre les deux. Certainement, il y en avait un qui était plus soucieux du bien familial, plus prêt à travailler, à soutenir, à rendre service, etc. Et l'autre, voilà, lui se laissait vivre, il allait, il venait, etc. On imagine bien un peu une sorte de légèreté, très de légèreté, puis une gravité chez le frère aîné qui est soucieux d'être un bon ouvrier. C'est intéressant de dire comment au fond, le péché de l'aîné, c'est peut-être pas tant la colère que le fait de ne pas avoir demandé. Le fait de ne pas avoir demandé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander, qui n'arrivent pas à demander un service, qui n'arrivent pas à demander un soutien, qui n'arrivent pas à demander, comme on le voit dans la parabole, un chevreau pour festoyer avec ses amis. C'est ça, c'est ce manque de parole de l'aîné. Et n'oubliez pas une chose, quand vous regardez la fratrie de Caïn et Abel, qu'est-ce qui manque ? Caïn conduit Abel au champ et le tua. Il n'y a pas eu d'explication entre les deux frères. Il y en a un qui était agriculteur et l'autre qui était pasteur. On imagine que le pasteur envoyait ses brebis paître dans les champs de l'agriculteur, que ça devait être tendu. Bon, pourquoi pas, mais on sait, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole entre Caïn et Abel. Il n'y a pas de parole. Donc c'est intéressant de dire l'absence de parole de l'aîné, alors qu'il a, il a un trésor, l'aîné. Et on voit bien à travers ça, Jésus parle de tous ceux qui sont religieux à son époque, hein, des pharisiens, ceux qui ont la loi, ceux qui ont les prophètes, ils ont un trésor. Hein, mais l'aîné, il a un trésor, mais il n'arrive pas à dire les choses. Il n'arrive pas à dire les choses. Et cette absence de parole, elle est violente. L'absence de parole fait qu'il y a une situation violente qui s'établit entre les personnes. Hein, on le voit à d'autres moments. Voilà, je crois que c'est important de dire, tiens, nous-mêmes, où est-ce qu'on en est dans l'expression de notre parole, des besoins ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a assez d'humilité pour demander de l'aide ? Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Est-ce qu'on a cette humilité pour demander de l'aide ? Ce qui n'est pas simple. Surtout que si on a besoin d'aide, voilà, c'est qu'on est dans une situation peut-être de fragilité, temporaire ou permanente. Mais on voit bien des personnes qui nous disent, voilà, qui sont à l'hôpital, qui sont lourdement handicapées, etc. Comme c'est difficile de demander de l'aide tout le temps. Comme c'est difficile, et on peut les comprendre. Mais c'est un chemin de sainteté. Et je trouve que le frère aîné, il nous dit, tiens, à nous qui sommes là et qui nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, communier au corps et au sang du Seigneur, eh bien, où est-ce qu'on en est de cette humilité? Est-ce qu'on reconnaît notre vulnérabilité? Est-ce qu'on reconnaît notre fragilité? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Oh, mais l'autre n'a qu'à s'en rendre compte. Non. parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, on a peur de déranger, on ne sait pas quoi faire. J'ai besoin d'être, qu'il y ait une parole qui soit dite. Alors je trouve que c'est bien, frères et sœurs bien-aimés, de dire, tiens, le Seigneur, à travers cette figure de l'aîné qui, voilà, on voit bien, c'est une susceptibilité, c'est pas, le père n'a pas commis d'injustice en accueillant, parce qu'il devait être extrêmement inquiet, qu'est-ce qu'il est devenu mon fils, il est peut-être mort, il est mort de maladie, il a été assassiné, on ne sait pas. On imagine bien le fils prodigue qui crée beaucoup d'angoisse chez son père, et on imagine bien sa joie. Voilà, mais chez l'aîné, c'est ça, il y a ce manque de joie parce qu'il y a ce manque de simplicité. Il y a ce manque de parole, il y a ce manque d'accueillir sa propre vulnérabilité. Il est dans une forme de toute puissance. Il est dans une forme de toute puissance. Mais ça nous arrive aussi, hein, ça nous arrive d'être dans la toute puissance qui fait que, voilà, il dit, moi je suis celui qui tient la maison. Et c'est vrai, humainement on peut le comprendre. Mais il n'a pas ce cœur ouvert à l'accueil de son frère cadet et rendre grâce au fond pour le fait qu'il soit revenu, son cœur s'est endurci. Et je trouve que c'est important au moment du carême qu'on revisite notre durcissement de cœur. Jésus est très, très raide avec les durcissements de cœur. Autant les fragilités, les vulnérabilités, voilà, on voit avec la femme adultère, avec d'autres personnes qui ont des inconduites, etc. Bon, il a une grande miséricorde, mais avec le durcissement de cœur, il est vraiment très tranchant. Il dit parce que là si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, c'est ce qu'on répète tout au long du carême. Eh bien, je trouve ça intéressant de dire, où est-ce que notre cœur est dur? À quoi on voit un cœur dur? C'est un cœur qui n'accepte pas de se laisser aider. C'est un cœur qui n'accepte pas de se laisser aimer. Alors on va demander, frères et sœurs bien-aimés, pour nous, pour ce carême, d'être peut-être de renouveler d'attention par rapport à cette question de la colère qui peut nous habiter, qui peut nous traverser, hein, encore une fois, ça fait partie des émotions, mais déjà que nous ayons cette maîtrise de nous-mêmes, cette maîtrise de soi, qui est un des fruits du Saint-Esprit, vous le savez, et puis que s'il y a eu des débordements, s'il y a eu des... Eh bien, que nous puissions avoir assez d'humilité pour aller demander pardon, et d'avoir cette attitude de reconnaître que notre vulnérabilité... Oui, nous avons besoin de justice, hein. La personne qui se met en colère, elle est très sensible à l'injustice. Mais est-ce que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas injustes à certaines heures? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas injustes? Est-ce que finalement, lui qui était sensible à la justice, hein, le frère aîné, est-ce que là, il n'est pas injuste dans son attitude? Oui, frères et sœurs, à notre tour, nous pouvons être victimes d'injustice, comme l'a créé aussi. Eh bien, de demander au Seigneur en ce jour d'être attentif à ça, de dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir rentrer dans une humilité à la manière de Jésus Eucharistie, me laisser prendre, me laisser confier entre nos mains, parce que c'est ce que nous allons vivre au moment de la communion. Alors demandons à Jésus cette humilité qu'il nous montre. C'est une vraie attitude de confiance, de remise de nous-mêmes, et de revisiter ces durcissements de cœur qui viennent des épreuves. Oui, bien sûr qu'on a tout ce que... Quelle vie n'a pas d'épreuves? Quelle vie n'a pas d'épreuves? Bien sûr que oui, toutes les vies ont des tempêtes. Voilà, mais sachons les traverser, sachons réouvrir le cœur pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.